Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un passage dans le livre du prophète Jérémie. Souvent, quand on pense à Jérémie, on pense au prophète qui se lamente, et pour cause, son deuxième livre s'est intitulé « Les Lamentations de Jérémie ». Mais dans les Lamentations, le verset qui est connu par cœur, le plus souvent, c'est celui qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin ». Elle se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. C'est un verset qui encourage, qui tourne nos regards vers Dieu. Ce n'est pas une lamentation. Je pense que c'est un marqueur pour nous dans notre lecture pour deux choses. La première, c'est que c'est acceptable d'être triste et d'avoir confiance en Dieu, d'être sûr de la bonté et de la fidélité de Dieu en même temps. Nous pouvons en être assurés car la tristesse portée par le prophète Jérémie est immense car il a vu son peuple partir en exil, un peuple qui a choisi de se détourner de Dieu. Alors ces paroles de confiance ont un poids particulier, encore pour nous aujourd'hui. Une deuxième chose, c'est nous rendre attentifs à ce qui est dans les textes, essayer de comprendre leur sens, ne pas entrer dans le texte en se disant « c'est Jérémie, il se lamente ». En lisant le chapitre 31 de Jérémie, on est témoin d'une alternance entre des passages qui sont réconfortants, plutôt joyeux, et des passages qui sont marqués par la tristesse, par la détresse. Je trouve que c'est difficile à interpréter. On aimerait bien sûr, que tout soit positif ou alors tout négatif et savoir où on en est. Mais la Bible est liée à notre humanité marquée par le péché. Elle prend en compte l'impact du péché dans notre quotidien, dans le monde qui a été créé bon. Alors voilà le passage que nous lisons ce matin. C'est Jérémie 31, les versets 31 à 34. « Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. » Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur. » Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Car je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Alors il est question d'une nouvelle alliance, d'un accomplissement. Et notre première tendance, bien sûr, en lisant ce texte, c'est nous dire « c'est de Jésus dont il est question ». Et c'est le cas dans un sens. Cependant, je vous invite dans un premier temps à revenir au contexte, les chapitres de Jérémie, surtout les chapitres 30 et 31, et avant cela, à définir quelques termes et notions. Alors, pour méditer ce texte, je vous propose d'abord de réfléchir sur trois thématiques. La première, c'est l'exil, qui est en toile de fond de ce texte. La notion d'alliance qui est au cœur du texte et la notion de grâce divine. Sur l'exil, les premières personnes à qui le texte de Jérémie était adressé sont les exilés de Babylone, à Babylone. Donc c'est après 587 avant Jésus. Le thème de l'exil est récurrent dans l'Ancien Testament et il n'est pas absent du Nouveau Testament, où les disciples de Christ sont appelés à se considérer eux-mêmes comme des étrangers voyageurs sur terre. En cas d'exil, les deux attitudes possibles qui se proposent d'elles-mêmes sont soit la révolte, ou du moins une vie en retrait, ou bien céder et adopter les pratiques culturelles du vainqueur. Le prophète Jérémie propose une troisième voie, comme on le lit dans le chapitre 29, qui dit « Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, car votre bien dépend du bien de la ville où vous êtes exilé. » Ce que Jérémie propose, c'est une loyauté subversive, c'est vivre l'équilibre entre la loyauté et la subversion par rapport à la culture dans laquelle les gens vivent, sans compromis et sans révolte. Daniel et ses amis nous montrent ce que cela veut dire concrètement dans le livre de Daniel. Babylone, c'est le symbole d'un système injuste, d'une institution humaine qui exige une allégeance à sa propre définition du bien et du mal. Dans ce contexte, nous devons, encore aujourd'hui, apprendre à vivre un équilibre entre la loyauté et la subversion en mettant en pratique la loi de Dieu, qui est d'aimer et d'honorer tout le monde. L'exil des Israélites, dans le récit biblique, dure jusqu'au jour du Seigneur. Un jour grand et terrifiant qui est raconté par les prophètes, car les retours à Jérusalem à partir de là sont toujours incomplets. Et quand Jérémie écrit au verset 31 « Voici les jours viennent », c'est un écho à ce jour du Seigneur. La deuxième notion, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu offre à son peuple, ce qui est au-delà d'une relation personnelle entre lui et moi. Il s'agit d'un partenariat, il s'agit de travailler ensemble pour un but commun. C'est une collaboration. La première alliance, celle qui apparaît comme finalement rompue dans ce texte lors de l'exil d'Israël, est suivie dans toute l'histoire de l'Ancien Testament avec des moments décisifs, les histoires de Noé, d'Abraham, de David. L'alliance comporte des promesses de la part de Dieu et demande des engagements. En particulier, le peuple hébreu est sauvé, libéré de l'esclavage, sorti d'Égypte, et Dieu lui offre et lui confie sa loi sur des tablettes de pierre. Cette loi, c'est une manière de vivre ensemble en bonne relation entre les humains, en bonne relation entre Dieu et les humains, et en bonne relation entre les humains et leur environnement. Et la bénédiction de l'Alliance doit être répandue à tous les peuples. En Jérémie 31, le prophète décrit une alliance rompue du fait des défaillances d'Israël, ce qui est marqué par leur exil à Babylone. C'est vraiment la fin de cette alliance. Mais Jérémie entrevoit une nouvelle alliance, et cette fois la fidélité des partenaires sera garantie. Une troisième thématique, c'est la grâce de Dieu. Dieu se présente dans la Bible de la manière suivante. En Exode, « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Cette bienveillance, cette grâce, est un élément fondamental de son action envers l'humanité. Par plaisir, Dieu accorde sa faveur et fait des dons. Savoir que Dieu pardonne, c'est savoir que Dieu fait un don de lui-même, de sa vie, de son amour. Dieu est plein de grâce, il accorde le pardon fidèlement, avec fiabilité, avec générosité. Venons maintenant au sens du texte pour les premiers destinataires de ce texte qui sont le peuple exilé, le peuple hébreu. L'annonce d'une nouvelle alliance répond à une situation désespérée, pas du tout une situation glorieuse ou prospère. Le livre de Jérémie raconte la rupture de l'alliance que Dieu avait scellée avec son peuple, Israël. La rupture est rendue visible par l'exil et la destruction de Jérusalem, la destruction du temple de Dieu, l'éloignement de ce lieu où le royaume de Dieu et le monde des humains se rencontraient. Jérémie est prophète pour Israël et pour les nations. Le drame qui se joue concerne l'humanité entière, et l'espoir qui y est rencontré est aussi pour tous les peuples. Jérémie est un messager de la justice, de la grâce divine. Il a la tâche d'avertir au sujet de la rupture de l'Alliance qui provient de l'injustice sociale. Il avertit que cette rupture se fera par l'intervention de l'Empire babylonien. Il donne aussi, en même temps, un message d'espoir pour l'avenir. Quand Jérémie annonce une nouvelle alliance, il s'agit à la fois d'une rupture et d'une continuité avec la première alliance. La première alliance a préparé la suite. Et réellement, ce message de Jérémie a été une source d'espoir pour les exilés. Cela a dû les encourager dans leur retour à Jérusalem pour la reconstruire, dans les récits que nous lisons dans les livres de Esdras et Néhémie. Concrètement, ce qui caractérise la nouvelle alliance, c'est qu'elle est complètement dans la suite de la première. Tous les éléments s'y retrouvent déjà. La nouveauté radicale en est trouvée dans la manière dont ces dimensions vont être vécues et pratiquées. On parle d'abord du cœur. Le cœur est le siège de la volonté dans la Bible. Et si Deutéronome 30 appelle déjà à porter la loi dans son cœur, ici la manière dont cela est réalisé est que Dieu lui-même l'y dépose. L'obéissance à Dieu est intériorisée d'une manière toute nouvelle. Ce qui est touchant, c'est que avoir la loi dans le cœur est ici uniquement un don de Dieu. Alors qu'à la lecture de Deutéronome 30, par exemple, on peut avoir l'impression qu'avoir la loi dans le cœur est l'aboutissement d'actes que les Israélites auront à accomplir généreusement. La Bible regorge d'images similaires qui oscillent entre ce que l'être humain fait et ce que Dieu fait. Un cœur nouveau, un cœur contrit, un cœur purifié, un cœur circoncis. Nous lisons aussi dans Jérémie et d'autres prophètes des annonces de la part de Dieu qu'il ne fera pas grâce sans retour à lui, sans abandon des idoles et des pratiques cultuelles et culturelles qui l'offensent. Mais Dieu est prêt à faire ce que les humains ne peuvent pas faire, et cette assurance est déjà dans Deutéronome 30. La deuxième caractéristique de l'alliance, c'est la relation réciproque avec Dieu. Dieu se crée un peuple, rien de nouveau. Et même, c'est l'histoire du salut de l'humanité et de la création qui continue ici. Ce changement d'attitude qui est offert est collectif. C'est le peuple de Dieu collectivement qui reçoit les promesses de l'Alliance avec ses effets positifs. Cela nous amène à penser à ce que nous vivons en Église, que ce soit localement ou à travers le monde. Quelle solidarité mettons-nous en œuvre pour vivre ensemble sous le regard de Dieu? Un troisième point de l'Alliance, c'est connaître Dieu. C'est, d'après les écrits de Jérémie, donner du prix à ce qui réjouit Dieu, c'est-à-dire la bonté, la justice et la droiture. Jérémie voit une communauté qui s'engage collectivement à connaître Dieu à travers la pratique de la compassion et de la justice. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve dans la Bible. Ensuite, le fait que la connaissance de Dieu soit la seule source d'une conduite digne de lui se retrouve aussi à plusieurs endroits dans la Bible, souvent en négatif. C'est-à-dire que sans connaissance de Dieu, les comportements des humains offensent Dieu, car ils n'ont ni justice ni bonté. Par exemple, on peut lire dans Osée 4, verset 1, « L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. » Ces marqueurs indiquent ce que Dieu attend de nous dans notre vie humaine, et cela est particulièrement vrai pour nous en tant qu'Église. C'est que nous mettions en pratique une justice dans notre société, portée par l'amour pour le prochain. Ainsi, nous ne passerons pas à côté de la nouvelle alliance, elle qui était nécessaire pour contrer l'injustice sociale dans laquelle l'humanité s'est retrouvée. Une quatrième caractéristique de l'alliance, c'est encore le pardon total des fautes de la part de Dieu. Et là, la garantie est nouvelle, différente des sacrifices qu'il fallait répéter. La nouveauté de l'alliance repose sur cette fondation, le pardon des péchés. Alors j'ai été un peu rapide pour passer du peuple d'Israël à l'Église. Comme je l'ai dit au début, ce texte nous paraît, à nous lecteurs chrétiens, porter clairement son accomplissement en Jésus. Pour avancer sur ce chemin, je vous propose d'entrer dans le Nouveau Testament, où nous trouvons d'ailleurs la question du pardon des péchés. Alors il se trouve que ce passage de Jérémie 31, les versets 31 à 34, est cité entièrement dans le Nouveau Testament. C'est dans la lettre aux Hébreux, où il est même cité deux fois, intégralement en Hébreux 8 et partiellement en Hébreux 10. Hébreux 8 argumente notamment que Jésus accomplit l'alliance. Son sacrifice sur la croix est parfait et ultime. S'éloigner de Jésus, c'est rejeter l'offre du pardon. Un message inconfortable dans la lettre aux Hébreux, mais un message qui a pour but non de faire peur, mais d'encourager à suivre Jésus concrètement dans le quotidien. Le Nouveau Testament comporte encore différentes allusions à une nouvelle alliance, avec la scène, le dernier repas du Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure, on le retrouve dans les Évangiles et dans deux lettres de Paul. Et dans une des versions, Jésus dit « C'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. » Et quand il dit cette phrase, il relie ensemble des passages de Exode 24, de Ésaïe 52 et de Jérémie 31. C'est le pardon des péchés qui est le fondement de la nouvelle Alliance. L'argument de l'auteur aux Hébreux, qui s'adresse à des croyants juifs, et que quelle que soit la part de la promesse de Jérémie qui s'est déjà réalisée historiquement, le pardon des péchés total et permanent est le signe de l'accomplissement de la nouvelle alliance. En effet, une partie de la promesse s'est vraiment déjà réalisée avec les retours d'exil qui marquent des actes de fidélité de Dieu, alors que la première alliance était considérée comme rompue à ce moment. Cependant, dans cette lecture de Jésus accomplissant la seconde alliance proposée par l'auteur de la lettre aux Hébreux, il faut nous garder d'ajouter une interprétation qui est du ressort de ce qu'on appelle la théologie de la substitution, ou encore, pour employer un grand mot, le supersessionnisme. Le texte ne dit jamais que l'Église a purement et simplement remplacé le peuple d'Israël. Au contraire, dans le Nouveau Testament, divers auteurs insistent pour montrer comment de nouvelles personnes, des païens, rejoignent le peuple de Dieu. Je dis simplement, sans m'y attarder, qu'il n'est pas nécessairement question ici de l'État moderne d'Israël, et aussi que nous prions pour la paix et la justice, pour une réconciliation et une vie en harmonie dans tout le Proche-Orient, spécialement depuis la semaine passée. Dans les écrits de Paul, il est clair que les païens rejoignent le reste d'Israël. Paul emploie l'expression « reste d'Israël », une notion qui est retrouvée tout au long de l'Ancien Testament. Et la suite du texte de Jérémie, les versets 35 à 37 au chapitre 31, nous montre un engagement de Dieu envers son peuple. Dieu est fidèle et tient ses promesses. Et effectivement, le peuple, un petit reste du peuple d'Israël, est revenu d'exil, ce qu'on lit dans Esdras et Néhémie, même s'il a ensuite vécu sous domination étrangère. Seulement, nous savons que Jérusalem a ensuite été complètement détruite par les Romains en 70. Alors comment comprendre l'alliance d'Israël? Comment peut-elle être certaine? Si on lit tous les termes de l'alliance, il faut bien s'avouer que connaître Dieu parfaitement, c'est encore pour l'avenir. En tout cas, pour moi, je suis très loin de le connaître parfaitement. Même avec la réalité spirituelle de la vie dans l'esprit, avec le Christ demeurant en nous, on ne saurait dire que les chrétiens vivent dans la nouvelle alliance, dans une parfaite obéissance, mais si c'est le cas pour vous, c'est très bien. Sur cette base, en suivant l'histoire biblique, nous arrivons à une vision future qui nous amène jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et je note juste encore en passant que certains des premiers anabaptistes ont utilisé ce passage qui dit « Tous connaîtront Dieu et personne n'aura besoin d'enseigner à son voisin » pour proposer qu'il n'avait pas à accepter les enseignements des enseignants officiels, ce que Calvin n'a pas apprécié pour l'histoire. Et pour autant, les anabaptistes ont par la suite pratiqué une interprétation communautaire qui est centrée sur le texte et sur Jésus-Christ. Donc je reviens à l'Apocalypse parce que Jean, quand il écrit son livre de la Révélation, l'Apocalypse, il y intègre cette parole au sujet de Dieu. « Ils seront mon peuple ». C'est un passage de Apocalypse 21, verset 3. C'est la même expression que Jérémie 31. Apocalypse 21 et 22 présentent la vision des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, de la création renouvelée. On peut s'appuyer sur ce texte pour proposer que la prophétie de Jérémie attend encore son plein accomplissement. Si nous mettons en perspective les paroles du livre de Jérémie, leur reprise dans la lettre aux Hébreux et cet écho dans l'Apocalypse, où Dieu dit « Finalement, ils seront mon peuple », nous sommes devant l'histoire avec un grand H et particulièrement devant les promesses de Dieu et ses actions qui nous montrent sa bonté et sa fidélité. Quand nous sommes les lecteurs qui lisent ces prophéties, il nous appartient de méditer sur la façon d'interpréter les promesses et leur réalisation. Regarder ce qui s'est déjà accompli historiquement, même si c'est une réalisation partielle seulement, elle nous montre toujours un peu plus la fidélité de Dieu et son action. On regarde ensuite ce que l'incarnation de Jésus sur terre a accompli par rapport à ses prophéties, car nous croyons que c'est vraiment le point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Et nous regardons encore ce qui reste à venir. Au milieu de tout cela, nous sommes avec la question de notre vie quotidienne. Tout autant que les exilés qui devaient décider s'ils allaient se révolter ou se compromettre ou bien rester fidèles à Dieu en apportant des bonnes choses à leur environnement proche. La façon dont nous vivons l'espérance portée par les promesses de Dieu. En conclusion, je propose de retenir que Dieu a promis une intériorisation de la relation entre lui et le croyant. Oui, mais pas sans une dimension collective, celle d'être un peuple. Et c'est bien Dieu qui agit, Dieu qui dit « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. » Dieu agit et l'alliance repose entièrement sur la décision et l'action de Dieu. Nous sommes sûrs de sa fidélité et nous sommes appelés à entrer dans son intention pour sa création, en devenant son peuple. Dans le temps que nous vivons, la connaissance de Dieu nous est offerte en Christ, bien que nous la comprenions seulement partiellement, et nous pouvons participer à une communauté qui cherche à connaître Dieu dans la pratique de l'amour et de la justice. Nous pouvons prier de tout notre cœur, fidèlement, que ton règne vienne. Amen.